Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, un nouveau rapport du GIEC appelle à mieux gérer les terres surexploitées pour ne pas amplifier le changement climatique. À Genève, la conférence du désarmement a débattu aujourd'hui de la prévention de la guerre nucléaire. Des experts de l'OMS déployés en République démocratique du Congo pour lutter contre Ebola racontent leur expérience. Et en dossier, une responsable de la FAO appelle à renforcer la résilience des agriculteurs en Afrique face aux répercussions négatives du changement climatique. Surexploiter les terres doivent être mieux gérées pour ne pas amplifier le changement climatique. C'est ce qui ressort du dernier rapport publié jeudi par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ces experts ont appelé à une gestion plus durable des terres, dont la surexploitation menace la sécurité alimentaire, la biodiversité et le climat. Pascal Sim nous en dit plus.
Les terres ne sont pas seulement surexploitées par les humains. Elles subissent également la pression du changement climatique, a alerté le GIEC dans la présentation de son nouveau rapport. Les experts de l'ONU soulignent qu'une meilleure gestion des terres peut contribuer à lutter contre le changement climatique, mais qu'elle n'est pas la seule solution. Ils rappellent qu'il est essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs si l'humanité veut maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius, voire de 1,5 degrés Celsius, comme le demande l'accord de Paris. Selon le GIEC, environ 500 millions de personnes vivent dans des régions en proie à la désertification. Les terres arides et les zones en proie à la désertification sont également plus vulnérables au changement climatique et aux phénomènes extrêmes. Dégradées, les terres deviennent moins productives, ce qui limite ce qui peut être cultivé et réduit la capacité du sol à absorber le carbone. Cette dernière conséquence exacerbe le changement climatique, qui amplifie en retour la dégradation des sols de différentes manières. Le GIEC rappelle qu'une gestion meilleure et durable des terres est nécessaire afin d'éviter que leur dégradation devienne irréversible.
La conférence du désarmement a débattu ce matin à Genève de la prévention de la guerre nucléaire en entendant quatre panélistes, dont l'ambassadeur de France. Yan Wang a jugé incontournable le recours au traité d'interdiction de la production de matières fissiles à usage militaire. Il a estimé que l'un des meilleurs moyens d'arrêter définitivement la production de ce type de matières fissiles est le démantèlement des installations concernées. C'est la voie choisie par la France, seul État doté d'armes nucléaires, à avoir irréversiblement fermé et détruit les installations de ces sites de Pierrelatte et de Marcoule. Yan Wang.
Mon pays maintient un arsenal au niveau le plus bas possible, compatible avec le contexte stratégique, en application de ce principe de stricte suffisance. Et mon pays n'a jamais participé à la course aux armements. Le niveau de l'arsenal nucléaire français, 300 têtes, ne dépend pas de celui des autres arsenaux dans le monde, mais de notre évolution du contexte stratégique. C'est pour ça que nous refusons une stratégie dite de counterforce qui aurait pour ambition de détruire les moyens nucléaires ennemis. Pour résumer l'expérience française en quatre points, le démantèlement est pour nous la solution immédiate. Le démantèlement a un coût. L'investissement total de la France est élevé à 10 milliards d'euros, c'est un coût. Deuxièmement, nous estimons qu'il faut que ce démantèlement soit irréversible. C'est une contribution concrète et réelle à la mise en œuvre de l'article 6 du TNP. Troisièmement, nous sommes attachés à la transparence du démantèlement. Et enfin, je voudrais souligner que toutes ces actions ont permis d'acquérir une expérience et une capacité dans le domaine du démantèlement qui sera utile pour la communauté internationale.
Depuis le début de l'épidémie du virus Ebola, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 2700 cas et plus de 1800 décès. Aux côtés du ministre congolais de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé, l'OMS, dirige la coordination de la réponse de santé publique. Elle assure également un leadership technique dans les domaines de la surveillance, de la vaccination et de la gestion des cas. L'OMS a ainsi mobilisé et déployé plus de 700 experts internationaux, dont 71% sont originaires d'Afrique. L'OMS et ses partenaires travaillent souvent dans des conditions souvent difficiles. Deux de ces experts sur le terrain sont Marie-Roseline Bélisère et Julienne Anoko. On écoute leur expérience.
Nous sommes à Kanyasi. C'est le village qui a eu 3 cas hier. Donc les maisons sont assez proches. C'est une seule famille qui habite dans cette contrée. Ici sur place, j'ai rencontré une population qui avait besoin de comprendre ce que c'est la maladie. L'accueil a été très chaleureux et ils sont tous partants pour avoir la vaccination que nous voudrons bien organiser pour eux.
Même après 10 mois d'épidémie, je pense que ma motivation continue d'être intacte. Et comme je vous dis, je n'abandonnerai pas. Et je pense que tous mes collègues, nous sommes tous pareils, c'est notre défi. Nous n'allons pas abandonner parce qu'on a choisi d'être humanitaire, humaniste.
La FAO s'est félicitée des conclusions du rapport du GIEC publié ce jeudi qui souligne notamment que la sécurité alimentaire sera de plus en plus affectée par le changement climatique, avec notamment une baisse de la productivité agricole et animale. C'est une réalité en Afrique où les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture comptent parmi les plus vulnérables face aux répercussions négatives du changement climatique. La FAO appelle à renforcer la résilience et outiller les paysans. Explication de Maria Elena Semedo, directrice générale adjointe à la FAO, jointe par Cristina Silvero.
Si on voit les chiffres sur la sécurité alimentaire en Afrique, on voit que c'est le continent où on a une plus grande proportion de personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition et où c'est en train d'augmenter chaque année. Alors, le lien entre la sécurité alimentaire et le changement climatique, il est évident. On voit que c'est un continent qui fait face à des effets du changement climatique. Soit on a des sécheresses ou on a aussi des éléments de la variabilité du climat. Si avant, on avait des périodes de sécheresse qui étaient plus distantes, maintenant, ils sont plus courts. Si avant, c'était 7 ans, 8 ans, maintenant, on parle de 2 ans et demi. Ou aussi des inondations, des phénomènes comme El Niño ou La Niña. On a eu, ça fait même pas 2 années de cela, El Niño suivi de La Niña. Vous voyez ce qui s'est passé à Mozambique, il ne fait pas longtemps. Alors, on a des effets des changements climatiques avec des événements qui sont beaucoup plus récurrents. Et la capacité de les prédire, c'est moins qu'on avait avant. Mais ce qu'il faut, c'est que tous ces effets du changement climatique ont besoin qu'on trouve et qu'on cherche des solutions. Et des solutions plus résilientes au climat.
Alors justement, vous mentionnez la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience ?
La résilience, c'est la capacité des personnes de faire face aux chocs climatiques. C'est la capacité de prévoir qu'on va avoir soit une sécheresse, soit on va avoir des inondations. On ne peut pas les empêcher, mais on peut savoir qu'ils vont arriver. C'est la possibilité de pouvoir surmonter à travers des solutions et aussi la possibilité de recommencer la normalité de la vie après ces phénomènes. Alors, je m'explique. On a la prévision, on sait qu'il y a une sécheresse qui vient, alors on peut avoir des semences qui sont des semences à cycle plus court, des semences qui sont plus tolérantes à la sécheresse. Au lieu de perdre la production, probablement on va avoir une réduction de la production, mais on va quand même produire. Et si on produit, on améliore les moyens d'existence de la population. Et quand la sécheresse finit, on a une population qui est préparée pour revenir à la situation normale. Et c'est là où on parle de la résilience. C'est une meilleure adaptation au climat. C'est de trouver des solutions qui fassent que les chocs climatiques ne se transforment pas en désastre, en famine ou en d'autres formes où la population perd tous leurs moyens d'existence.
Alors, vous avez loué la créativité des petits agriculteurs africains et vous avez lancé un appel pour qu'on leur apporte plus d'appui. Ça se traduit comment ?
Moi, j'ai l'habitude de dire que les premiers innovateurs dans l'agriculture, c'est les paysans. Depuis des années, ils ont su s'adapter, ils ont trouvé des solutions. Mais on voit que l'amplitude de l'impact nous amène à voir des solutions où la science et l'innovation s'ajoutent. Par exemple, on sait qu'avec les changements climatiques, on a plus en plus de nouvelles maladies des plantes et des animaux qui étaient éradiquées, qui reviennent. Par exemple, la chenille légionnaire. La FAO, une application où le paysan, il peut faire une photo. Avec la photo, il sait s'il y a la chenille légionnaire ou pas. S'il ajoute un drone, il peut avoir une idée de l'extension, comment son champ est affecté ou pas. Et s'il envoie, par exemple, la photo à la FAO, on lui dit ce qu'il faut faire. Alors, les petits paysans, ils n'ont pas cette capacité d'investissement. Et c'est là où les institutions et les pays, surtout au niveau des politiques, au niveau des investissements, doivent venir les aider pour pouvoir avoir une meilleure utilisation de tous ces outils. Il faut avoir plus d'investissement dans l'agriculture. On parle de 10%, mais on n'arrive pas à avoir les 10%. Des investissements domestiques, et des investissements des banques, des institutions financières.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.